Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant quelques réflexions sur l'amour véritable. C'est l'étude numéro 3. Chers amis, nous reportons souvent sur l'autre nos propres images et nos propres désirs, et ce n'est plus alors l'autre dans sa réalité que nous aimons, mais c'est l'image que nous, nous sommes faites de lui. Il n'est donc pas facile d'aimer une personne telle qu'elle est. Cela suppose que l'on se débarrasse de toutes les illusions qu'on a nourries à son propos, y compris de celles que l'amour demeure toujours un sentiment merveilleux. Souvent, il est simplement une question de fidélité à l'autre, ce qui implique plus que l'effort de le supporter. Donc la fidélité doit rester intacte, que n'importe quoi puisse arriver. Cela signifie l'accepter dans sa banalité et dans ses faiblesses. Chers amis, celui qui aime vraiment laisse à l'autre le temps de grandir. Il ou elle renonce à faire de l'autre ce qu'il voudrait qu'il soit. Il l'accepte tel qu'il est et le supporte avec toutes ses forces et ses faiblesses, avec tous ses défauts et ses limites. L'impatience se forge des images précises de l'autre et attend de lui qu'il y corresponde immédiatement. Il attend du partenaire, par exemple, qu'il corrige tel ou tel défaut le plus vite possible. Mais cette impatience tue carrément l'amour. Il est naturel que nous ayons des désirs concernant l'autre, que nous espérions qu'il va mûrir et changer. Mais l'amour, elle veut que nous lui laissions du temps, que nous ayons la patience d'attendre, au lieu de penser qu'il suffit qu'il veuille se débarrasser d'un défaut pour y parvenir immédiatement. Être impatient, c'est avoir une image étriquée de l'être humain. C'est imaginer qu'il fonctionne comme un robot qui n'a qu'à appuyer sur un bouton pour se transformer. C'est ne pas lui laisser le temps de grandir et de mûrir, c'est refuser de l'accepter dans son unicité. Les défauts et les faiblesses peuvent tout à fait être touchantes. Il dépend de moi de voir les choses ainsi et de les accepter. Si je laisse patiemment l'autre être lui-même, comme il est, alors je l'aimerai de plus en plus comme un être qui est unique, et ses défauts et ses faiblesses n'auront donc plus autant d'importance. Chers amis, l'amour veut s'exprimer dans la sexualité. Dans l'union sexuelle, les deux partenaires parviennent au point culminant de leur amour. Pour s'accomplir totalement, l'amour entre deux personnes a besoin de la sexualité, surtout s'ils sont encore jeunes. Mais tout ne doit pas tourner uniquement autour de la sexualité. Mais l'acte sexuel n'est pas seul à affermir l'amour et cimenter la relation. L'homme et la femme s'attirent l'un l'autre et cette attirance maintient leur amour en vie. N'est-il pas merveilleux de voir la tendresse qui émane d'un couple âgé lorsque l'un continue à percevoir la tendresse de l'autre et que les deux peuvent en vivre en une harmonie épanouie? Plus nous vieillissons et plus longtemps un couple demeure, plus on comprend ce qui compte finalement. L'amour, c'est accepter l'autre sans condition. C'est de le suivre, et j'ajoute, c'est de la suivre, vous comprendrez, et de l'accompagner dans tous les aspects de sa vie, y compris dans la maladie et dans la perte d'autonomie. Chers amis, l'union sexuelle ne réussit que si chacun des partenaires se donne à l'autre sans penser exclusivement à son propre désir et à son propre plaisir. À cette condition seulement, ils sont vraiment libres d'eux-mêmes et peuvent, dans la fusion de leur corps, vivre le bonheur le plus intense. Mais ce bonheur, on ne peut le retenir. Pour l'éprouver, il faut régulièrement renouveler ces moments d'abandon. Chaque jour fournit des occasions de s'entraîner très concrètement au don de soi qui culmine dans la sexualité. Le don de soi, c'est aussi cette mère, cette maman qui se consacre passionnément à ses enfants, celle qui s'investit avec ardeur dans l'entretien quotidien du ménage, ce mari qui soigne sa femme malade avec beaucoup de dévouement. Autant de situations qui mettent en scène le bonheur, oui, le vrai bonheur que représente l'oubli de soi. Si selon Georges Bernanos, c'est une grande grâce de pouvoir s'accepter soi-même, nous savons combien il est difficile de s'accepter avec toutes ses limites. C'est une plus grande grâce encore de pouvoir s'oublier. À l'instant où je m'oublie, je suis totalement présent. Je mets mes propres besoins de côté. Je ne m'interroge pas sur ce que je ressens et ce que m'apporte mon engagement ou mon dévouement, je me donne tout simplement et je me libère moi-même. Chers amis, l'amour sexuel ne sera qu'un vulgaire exercice de gymnastique physique si j'oublie le mystère de l'autre. le don réel de soi à l'autre ne réussit que si l'on accède à son mystère. Prendre en compte le mystère de l'autre est finalement l'expression d'une profonde spiritualité. La sexualité exige déjà en soi une spiritualité pour pouvoir à la longue procurer du plaisir et ne pas être seulement réduit à une production ennuyeuse d'orgasme. La dimension spirituelle de la sexualité, c'est prendre conscience que le don de soi est finalement un don à la vie et tout simplement à l'amour. Je me donne à cet homme, à cette femme, et ne fais que un avec lui ou avec elle. Mais en fusionnant ainsi, je ne fais que un avec le tréfond de tout être, avec le tréfond de tout amour. Chers amis, être attentif à l'autre, c'est le prendre en compte. Percevoir ses sentiments, ses réactions, c'est sentir intuitivement comment il va, se demander ce dont il a besoin. Et c'est cela précisément qui lui fait du bien. Si je m'astreins à cette attitude vis-à-vis de l'autre, alors je parviens aussi à bien gérer mes propres sentiments. Bien des relations boitent de ce que l'un des partenaires n'est pas vraiment avec l'autre tant il est préoccupé par son travail ou par les soucis qu'il se fait pour l'avenir. L'attention maintient vivante la relation. Cela signifie que je fais attention à mes propres sentiments, à mes émotions, mais aussi aux émotions et aux besoins de mon ou de ma partenaire pour ressentir ce qu'il ressent lui-même. Je ne me fais pas une image figée de lui ou d'elle, mais j'essaye de me mettre à sa place pour imaginer ce qu'il ou elle désire, ses états d'âme et ce qu'il ou elle éprouve. Être attentif à l'autre, c'est aussi veiller sur lui. Or, nous ne dormons que trop souvent en nous berçant d'images de la vie de l'autre. Vivre de manière attentive, cela signifie que l'on se réveille, qu'on ouvre les yeux et qu'on regarde l'autre comme si on l'avait encore jamais vu. Et qu'en fin de compte, on ne le regarde pas seulement avec les yeux du corps, mais avec ceux du cœur. Chers amis, dans sa parabole du Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry nous révèle le secret du bonheur. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Les yeux voient uniquement la surface des êtres et des choses. Ils perçoivent les traits du visage de l'autre, sa contrariété, son insatisfaction, son introversion, sa dureté, son chagrin et sa souffrance. Mais le cœur, lui, le cœur est plus perspicace. Il va au-delà du visage et il voit dans le cœur de l'autre son désir d'être bon, d'être en paix avec lui-même et avec le monde, son désir d'aller vers Dieu et de lui offrir sa vie délabrée, de trouver la guérison en Dieu et d'être en harmonie avec lui-même. Ce qui est essentiel en l'homme est invisible, comme aussi ce qui est essentiel dans le monde. L'art de la vie consiste donc à voir avec le cœur. Et c'est seulement en regardant avec le cœur que je vais découvrir dans une fleur la beauté de son créateur et dans un arbre ma propre aspiration en m'enraciner, de m'enraciner plus profondément dans un sol porteur. Seul le cœur voit dans toute chose les traces de cette réalité, de cette certitude que me communique le visage de tout être humain. Chaque pierre et chaque brin d'herbe qui me disent « Tu es vraiment aimé » dans tout ce que tu vois, l'amour t'entoure. Chers amis, je rends grâce pour l'amour fidèle et loyal que Dieu me permet de ressentir pour un partenaire qui m'accepte et qui est là pour moi. Je suis conscient que l'amour nous est toujours donné comme un cadeau, sans que nous puissions le revendiquer comme un droit qui nous est dû. C'est un mystère qui nous lie l'un à l'autre, et cela au plus profond de nous-mêmes. Comme toujours dans la spiritualité, cette reconnaissance a besoin de s'exprimer sans cesse. Nous pouvons le faire de multiples façons, et il n'est pas seulement réservé au repos dominical. Nous pouvons chaque jour dire notre reconnaissance et montrer à l'autre par un petit signe, qu'il soit verbal ou symbolique, que nous percevons ce qu'il fait pour nous. Mais il est bon parfois de le remercier aussi pour le simple fait qu'il soit là, d'être ce qu'il est à notre côté et de pouvoir l'aimer et être aimé. Chers amis, si je m'accroche trop à l'autre, je l'empêche de respirer, de se nourrir d'autre chose que de moi. Or, moi seul, je ne suis pas une nourriture suffisante. À l'un, il faut aussi la musique. À un autre, la visite d'un musée. À un autre encore, il faudra une promenade en pleine nature ou encore un cours sur tel sujet spirituel. Certains se sentent renforcés et plus riches après une rencontre et des échanges avec des amis dans la foi. Le proche et le lointain s'appartiennent. Mais si trop de distance affame l'autre, trop de proximité l'étouffe, le tout, comme nous l'avons déjà expliqué, c'est de parvenir à une juste ou à un juste équilibre. Chers amis, le mot respect vient du latin respicere, c'est-à-dire se retourner pour regarder à nouveau. Au quotidien, je passe souvent à côté de mon partenaire, je ne le vois même plus. Je dois donc faire une pause pour porter celui sur lui un regard tout nouveau. C'est cela, le respect. Considérer l'autre, ne plus passer près de lui ou près d'elle sans le voir, sans la voir. Mais se retourner, oui, de se retourner et le regarder pour tenir compte de lui. Quand je regarde vraiment quelqu'un, je le considère, ce qui veut dire que je fais cas de lui, que j'estime sa valeur, sa dignité, son unicité, sa singularité. Au cours de mes entretiens, j'entends souvent dire « Mon mari ne me voit même plus. Il ne s'intéresse plus qu'à ses affaires. Je me sens totalement transparente. » Quand le mari ne voit plus sa femme, elle souffre d'un manque d'estime de sa part. Cette estime dont je parle ne doit pas s'exprimer que par le regard, mais aussi par des paroles. Il est bon que je dise à l'autre ce que je lui reconnais comme valeur, afin qu'il puisse croire lui-même en sa propre valeur. L'estime peut aussi se manifester par des petits cadeaux dont la valeur matérielle, celle-là, n'importe absolument pas. Certains pensent en effet combler par un cadeau coûteux l'estime qu'ils ne peuvent exprimer au quotidien et qui manque à l'autre. Offrir appartient à l'amour. Que fait l'autre? Oui, que fait l'autre? Un restaurateur, par exemple. Qu'est-ce que fait un restaurateur pour apaiser ma soif? Sinon, de m'offrir, me semble-t-il, quelque chose à boire. En offrant un cadeau, je dois aussi chercher à apaiser la soif d'amour de mon ou de ma partenaire. Et ce n'est pas la valeur matérielle de ce cadeau qui va le désaltérer, mais c'est l'imagination et l'amour que je vais y investir. Chers amis, l'amour doit certes être spontané et créatif, mais il doit aussi revêtir des formes concrètes pour ne pas s'étioler. Les sentiments vont et viennent. Il faut des points d'appui pour entrer en contact et attiser le sentiment d'amour. Ce sont les rituels qui insufflent de la vie à l'amour. Ils sont donc le lieu qui permet aux sentiments de s'exprimer et qui, sans eux, resterait étouffé. Les rituels approfondissent les relations entre les êtres et créent également une identité commune. Ils nous relient à une dimension plus intense est plus profonde que celle de la raison et de la volonté, que celle du sentiment lui-même, notamment pour ce qui est des rituels de l'intimité à deux. Certains couples, par exemple, ont pour habitude de se donner un baiser le matin en se levant et le soir en se couchant. Cela peut paraître superficiel, mais si cette pratique se répète journellement, les partenaires ont, ou moins, on peut dire, une fois par jour, un geste tendre l'un envers l'autre. Le baiser peut être parfois plus intense, mais il peut être aussi seulement une façon pour l'un et l'autre de se dire qu'ils prennent leur amour au sérieux. Croyez-moi, cela peut même être merveilleux. Chers amis, au commencement d'une relation, les partenaires s'écrivent souvent des lettres dans lesquelles ils déclarent leur amour. Une fois installée la relation, ils remplacent l'écrit par la parole et les lettres par les discussions. Pourtant, il est parfois bon d'avoir de temps à autre recours à la lettre, toujours pour une occasion particulière, comme par exemple un anniversaire de mariage, mais aussi pour tenter de venir à bout d'une situation difficile qu'on a du mal à démêler en discutant. Pour écrire une lettre, je prends du temps. Je m'installe et je réfléchis précisément aux mots que je vais coucher sur le papier. Je vais y mettre de la bienveillance et de l'amour. Je vais demander à Dieu de m'aider à bien les choisir. Et là, je vais écrire ce que j'avais envie depuis longtemps de dire à mon partenaire, mais que je n'ai pas eu le courage ou le cœur de le faire. Je vais donc l'assurer de l'importance qu'il a pour moi, lui dire combien je l'aime et combien je le remercie pour l'amour qu'il me donne. Des lettres de ce genre approfondissent une relation, conduisent les partenaires au fondement de leur amour dans ce tréfonds où l'amour de Dieu les unit. Et aujourd'hui, les moyens de communication ne manquent pas. Le téléphone qui nous relie quand nous sommes séparés, ou encore les SMS que nous pouvons nous envoyer à tout moment, sont autant de façons de prouver notre attachement à l'autre, en même temps que des moyens d'approfondir notre relation. Chers amis, un moyen d'affermir une relation et de se remémorer la manière dont elle a démarré. Qu'est-ce qui nous a conduit l'un vers l'autre? Qu'est-ce qui m'a fasciné chez l'autre? L'amour que nous éprouvions l'un pour l'autre à cette époque ne s'est pas évanoui, mais il s'est peut-être transformé ou fané. Je ne peux pas claquer les doigts pour faire renaître en moi les sentiments de jadis, car ils ont toujours affaire aussi à une projection. La femme dont je suis tombé amoureux a éveillé en moi des sentiments forts. Elle a touché en moi le profond désir que j'avais de ne faire qu'un avec elle. Elle m'a mis en contact avec des sentiments qui sommeillaient en moi et ne demandaient que à être éveillés. Mais si je me rappelle les débuts de notre amour, je ne ressens pas seulement l'état amoureux, mais je perçois aussi ce que cette femme incarne de précieux et d'unique. C'est en tout cas ce qui m'a touché à l'époque. Peut-être ai-je vu en elle une promesse de bonheur, de maternité, de beauté de vie et d'amour. Que reste-t-il aujourd'hui de cette promesse? Si je laisse pour un moment les sentiments de côté, et si je considère objectivement pourquoi cette femme m'a attiré, qu'est-ce qui apparaît alors? Quelque chose qui, indépendamment de mes projections, est bien là, en cette personne même, aujourd'hui. Et je peux alors, à nouveau, lui dire oui. D'autres faces d'elle me sont apparues au fil du temps, mais ce qui m'a attiré en elle autrefois, elle ne l'a pas perdu. Elle m'apparaît désormais dans une autre lumière et j'entre à nouveau en contact avec l'amour qui s'est jadis allumé en moi. Chers amis, la fidélité qui correspond au désir le plus profond de l'être humain va de pair avec la stabilité. Elle fournit au partenaire une base solide sur laquelle ils peuvent se maintenir. Selon le philosophe Otto Friedrich Bollnow, la fidélité est toujours une fidélité à un toit. Je ne promets pas à l'autre un certain type de comportement, mais je prends un engagement existentiel à son égard. Je promets donc à l'autre de lui être fidèle. Certains pensent qu'il n'est guère possible de faire un tel serment et qu'il faudrait renouveler notre promesse à chaque instant. La fidélité m'engage donc de bonne manière, moi en tant que personne, et cela sur la durée. Elle me montre que je dépasse l'instant. Quelles que soient les situations ou les épreuves qui nous transforment, la fidélité interpelle ce qui est constant en nous et qui fait notre identité la plus profonde. Promettre fidélité au partenaire, c'est l'assurer de lui rester fidèle, même si la vie me transforme ou le transforme. C'est donc dire oui maintenant aux êtres qui vont changer, dire oui à quelque chose qui ne se révélera que dans un avenir encore inconnu. Même si la fidélité ne peut parfois pas être vécue jusqu'au bout, elle contient une dimension d'éternité dans sa promesse. Nous promettons toujours une fidélité durable, donc éternelle. Ce qui veut dire que nous sommes prêts à travers avec l'autre toutes les difficultés, Nous sommes donc prêts à traverser avec l'autre toutes les difficultés que nous rencontrons sur notre route, sur notre chemin. Et c'est là, vraiment, une promesse qui donne à bien des gens la force de régler au mieux des conflits. Cependant, malgré tout ce que ce serment a de sérieux, nous savons que l'échec est toujours possible. Mais la promesse confère aussi son sérieux à l'échec. Elle nous promet de ne pas rompre le lien au premier faux pas. Chers amis, nous arrêtons ici notre étude pour aujourd'hui et nous allons prier ensemble. Avant, je voudrais vous dire une strophe d'un très ancien cantique. Après la prière, j'essayerai de vous mettre quelques chants d'un lointain passé, 1965. Il y avait encore, en ce temps-là, pas de CD possible. C'était la chanteuse Mahalia Jackson qui faisait partie des baptistes américains qui étaient en ce temps-là connus mondialement. Voici donc les strophes de cet ancien cantique. Ô Dieu de vérité, pour qui seul je soupire, unis mon cœur à toi par de forts et doux nœuds. Je me lasse d'écouter, je me lasse de dire, mais non pas de te dire, c'est toi seul que je veux. Parle seul à mon cœur, et qu'aucune science, qu'aucun autre docteur ne m'explique tes lois, que toute créature en ta sainte présence s'impose le silence et laisse agir ta voix. Prions. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, de ce que tu nous as donné ta sainte parole, cette parole qui nous parle à la fois de la puissance et de ton amour, par laquelle toutes choses ont été créées et par laquelle tu peux sauver nos âmes. Daigne, Seigneur, l'appliquer toi-même à nos cœurs par ton Saint-Esprit et nous y faire trouver une véritable nourriture spirituelle. Que nous y prenions notre plaisir et que nous la méditions jour et nuit. Que cette sainte parole qui a été la force et la victoire de notre Sauveur au jour de l'épreuve et de la tentation, soit aussi notre force et notre consolation pendant cette journée qui commence. Qu'elle demeure en nous abondamment pour nous faire porter beaucoup de fruits à ta gloire. Nous nous plaçons avec tous ceux qui nous appartiennent sous ton regard et sous ta protection. Rends-nous fidèles à tes grâces et reconnaissants de tes bienfaits. Père Saint, garde-nous du mal. Préserve-nous surtout de tomber dans le péché. Bénis pour nous le culte que nous venons de te rendre afin que nous puissions dire en vérité que nous approcher de Dieu notre Père, ça c'est notre bien. Que cette prière que nous faisons monter vers toi dans notre faiblesse redescende sur nous par ta grâce en rosée de bénédiction. Nous te le demandons au saint nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Et maintenant, je veux essayer de vous mettre quelques chants de ce lointain passé.
When you give the best of your service, telling the world that the Savior has come, be not dismayed.
wash and pray for the day of our Lord is surely gonna come when every born again believer, that day we will be as one. We will all be coming back with true teeth, and there's gonna be a great big jubilee. Then we'll call him Lord of Lords and shout victory, victory. Ah!
Every single day, now the summer.